Nous sommes aujourd'hui au troisième message et en réalité ce que nous avons fait sur le 2 septembre, le 9 septembre et aujourd'hui, c'est simplement une introduction. Nous présentons simplement la personne du Saint-Esprit. Notre point de départ, c'était ce texte de Actes 19 dans lequel des disciples ont dit à Paul « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit étant aujourd'hui peu, voire pas enseigné, ou quand il est mal enseigné, il y a toutes sortes de mauvaises connaissances, il peut y avoir toutes sortes de peurs, toutes sortes de préjugés ou d'a priori dans le cœur des uns et des autres. Alors il m'a semblé bon, avant que nous allions plus loin, sur cette étude de la vie de l'Esprit, de voir tous les aspects de la vie du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre cœur, de commencer par le présenter, par l'introduire. Il faut faire connaissance avec lui. Et puis j'aimerais aussi qu'au travers de cette série, de cette trilogie d'introduction, la foi puisse venir dans les cœurs, que la confiance puisse venir dans les cœurs et aussi la soif et que les yeux spirituels s'ouvrent. La première chose très rapidement que nous avons vue, c'est que l'Esprit est Dieu. Nous avons parlé de la divinité du Saint-Esprit, cette troisième personne qui fait totalement partie de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Un seul Dieu, mais en trois personnes totalement égales, parfaitement identiques et indivisibles. Alors c'est vrai que si on regarde un peu le plan du salut, on s'aperçoit que les trois personnes de la Trinité n'ont pas joué le même rôle dans le plan du salut. Effectivement, mais le plan du salut est bien élaboré par le Dieu trinitaire et les trois personnes de la Trinité jouent un rôle dans ce plan. Alors c'est vrai que on lit l'Écriture, on s'aperçoit que dans le plan du salut, le projecteur, je le dis ainsi, le projecteur est braqué sur la personne de Jésus. Jésus incarné, Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus élevé, Jésus glorifié, Jésus qui revient, Jésus assis à la droite de Dieu le Père, etc. etc., etc. Mais ce n'est pas pour autant que le Saint-Esprit ne sert plus à rien et qu'il devient, excusez-moi, la troisième roue du carrosse ou la roue de secours qu'on met dans le coffre et puis on va la sortir peut-être un jour si on en a besoin. Alors, l'Esprit, nous devons le comprendre, est tout autant Dieu que le Père et que le Fils. Et dire que le Saint-Esprit est Dieu, j'insiste, le Saint-Esprit est Dieu, dire que le Saint-Esprit est Dieu, ce n'est pas voler la vedette à Jésus. Ce n'est pas parce que j'ai dit « le Saint-Esprit est Dieu » que j'ai fait tomber Jésus de son trône. Non, l'un n'empêche pas l'autre. Jésus est élevé, il est glorifié, il est sauveur, il est Seigneur. Mais vous le savez, vous l'avez lu comme moi, il est au ciel. Et vous, vous êtes sur la terre. Et si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous allez expérimenter ce que Jésus a dit à ses disciples, vous allez vivre comme des orphelins. Oui, Jésus est au ciel, élevé, glorifié, mais moi je suis sur la terre. C'est pour ça que j'ai besoin de vivre une vie remplie du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, oui, les chrétiens ont raison quand ils disent « c'est pas pour aller au ciel ». Je dis « oui, c'est pas pour aller au ciel, mais c'est pour rester sur la terre ». Et c'est parce que je suis sur la terre qu'il faut que je vive dans ces dimensions de l'Esprit, parce que sinon je ne pourrais absolument rien vivre, rien expérimenter, je m'en sortirais pas. Et c'est bien parce qu'on est sur la terre que Jésus a dit « je vais vous envoyer le halos paraclétos, le halos, celui qui est égal, celui qui m'est identique en tout point ». Les textes qu'on a abordés dans le premier message, vous les retrouvez sur internet avec le PowerPoint pour étayer toute cette argumentation. La semaine dernière, on a vu ensemble les caractéristiques de sa personne. Oui, il est Dieu, il est une personne. Et on a vu ensemble les caractéristiques de sa personne. Il parle, il enseigne, il convainc, il console, il donne des directions, il a une volonté, il intercède. Tout ça, c'est dans le deuxième message, vous le retrouvez aussi déjà sur internet. J'aimerais vraiment que l'on comprenne dans ces messages d'introduction que le Saint-Esprit ne se résume pas à du parler en langue ou à des manifestations de puissance. Quand bien même je dis qu'il faut parler en langue et qu'il faut parler abondamment en langue, quand bien même je dis qu'il y a de nombreux bienfaits au parler en langue, c'est une nécessité et que nous avons besoin aussi de toutes les confirmations, les prodiges, les miracles, les confirmations, la puissance de Dieu, la dunamis pour confirmer la parole prêchée et le témoignage des croyants là où ils sont. Nous en avons besoin. Mais le Saint-Esprit ne se résume pas à des manifestations surnaturel. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et j'ai besoin de réaliser que c'est une personne complète, qui est riche, qui est précieuse, qui est variée, qui est équilibrée. Et je ne peux pas le disséquer. Je ne peux pas prendre du Saint-Esprit que ce qui m'arrange. J'ai besoin de comprendre qu'il est une personne et qu'en tant que personne, je vis avec lui. Une personne implique des relations. Je vis avec lui, je vis de relations. Et nous avions terminé la semaine dernière sur ce texte de Paul, 2 Corinthiens 13:13, que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu, la communion, ou aussi la communication, ça va ensemble, la communion, la communication du Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre vous. Parce que la personne et l'œuvre du Saint-Esprit sont tout aussi nécessaires à ta vie que l'œuvre du Père ou l'œuvre du Fils. Et si tu négliges la vie de l'Esprit, pardon, tu vas vivre sur cette terre comme un orphelin. J'ai besoin de réaliser la nécessité d'une authentique communion avec lui. Nous allons parler aujourd'hui de l'œuvre du Saint-Esprit. Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu, et dans l'hébreu ici, c'est déjà un pluriel, signe de la Trinité présente. Elohim, c'est un pluriel. Pour vous, c'est un singulier, mais en hébreu, c'est un pluriel. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, littéralement le roua, le souffle. On a chanté ce matin que ton souffle, le souffle de Elohim, le roua Elohim, se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Saint-Esprit est omniprésent dans toute l'Écriture, dans toute la parole de Dieu. Et il est présent à tous les niveaux. Il est présent en tant que personne divine, en tant que personne toute puissante. Il est à l'œuvre dès le commencement. Il est en quelque sorte l'exécuteur de la parole. La parole sort de la bouche de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui prend cette parole et qui va en faire une réalité concrète pour agencer ce monde, agencer la création. Le lépreux se trouve devant Jésus et dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Jésus dit « Je le veux, sois pur ». Il parle à un sourd, il parle à un muet, il parle à un aveugle. Il dit une parole, mais c'est l'Esprit de Dieu qui prend la parole et qui en fait une réalité concrète dans le corps de celui qui a reçu cette parole par la foi. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dès la création par son omnipotence, par son omniprésence. Genèse chapitre 2 cette fois-ci, pour nous apercevoir que sans l'Esprit de Dieu, il n'y aurait même pas de vie humaine. Nous ne serions même pas vivants. Je ne parle pas d'être vivant spirituellement, ça on le voit après. Le mouvement, la respiration, l'être, la vie humaine. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu, pareil, Yahvé Elohim, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Ou d'autres versions disent, à juste titre, il devint une âme vivante. Le miracle de la vie humaine, sans lui, sans le roi, sans le souffle de l'Esprit de Dieu dans le corps d'Adam, Adam ne serait resté qu'un corps, peut-être beau, peut-être merveilleux, peut-être bien fini, peut-être plus beau que ce que nous sommes aujourd'hui, mais il serait resté un corps, il serait resté un robot. Mais Dieu n'a pas voulu que l'homme soit un robot, il a voulu que l'homme soit un être à son image. C'est pour ça qu'il a fallu le souffle de roi Elohim, le souffle du Tout-Puissant, pour qu'aujourd'hui, et comme tous les jours, sans que vous y pensiez, vous ne faites même pas attention tellement ça vous paraît normal, mais vous vous levez, vous respirez et vous êtes vivant. La nuit, vous êtes totalement inconscient, mais vous vivez, vous respirez. Pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est à l'origine de la vie humaine. Je ne vais pas trop loin sur ce point, je vous ai mis. Vous retrouverez tout sur Internet. Ceux qui veulent noter, je vous ai mis aussi des références dans Job. Job 33, Job 34. J'avance, je ne m'étends pas sur ce point. Il est à l'origine de ce miracle qu'est la vie humaine. Frères et sœurs, s'il n'y avait pas eu le Saint-Esprit, non seulement il n'y aurait pas de création, il n'y aurait pas de vie, mais s'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu, on n'aurait pas de Bible. Parce que l'apôtre Pierre dit, 2 Pierre 1,21, pour ceux qui notent, l'apôtre Pierre dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et le sens premier du mot, hein, du verbe inspirer, c'est ça. Inspirer, littéralement, ça signifie faire pénétrer l'air dans les poumons. C'est ça, inspirer. Eh bien, de la même façon que l'air pénètre dans vos poumons, le Saint-Esprit a inspiré, c'est-à-dire qu'il a fait pénétrer la pensée de Dieu dans l'esprit, dans le cœur des hommes, des auteurs humains qu'il s'était choisi pour écrire cette parole éternelle, infaillible et immuable. Sans le Saint-Esprit, pas de création, pas de créature, pas de vie humaine, pas d'inspiration des Écritures. On s'aperçoit aussi, dès l'Ancien Testament, tous les hommes qui ont été animés par l'Esprit, par le Roi, par le souffle de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, sont des hommes qui ont fait la différence. Et là, j'aimerais qu'on lise, ce sont des textes assez rares, qui sont très peu connus, j'aimerais qu'on ouvre ensemble Exode 31, versets 3 à 5, et on voit que c'est le Saint-Esprit, le souffle, le Roi, qui a communiqué aux hommes, dès le commencement, les capacités intellectuelles et manuelles. Des fois, on dit de certaines personnes, « Oh, qu'est-ce qu'il est doué ! Ah, celui-là, il a de l'or dans les mains. Ah, celui-là, vous lui donnez une deux chevaux, il vous en fait une Ferrari. Celui-là, vous lui donnez du carrelage, il vous fait un palace. » Et on dit, « Ah, il a de l'or dans les mains. Ah, il bricole à la merveille, à la perfection. Ah, vous lui donnez deux planches de pain, oh, il vous fait un meuble magnifique. Je l'ai rempli, dit Dieu, je l'ai rempli de l'esprit, du roi. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Je l'ai rendu capable de travailler l'or. Je l'ai rendu capable de travailler l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler les bois. Je l'ai rendu capable d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dès les temps anciens, c'est le Saint-Esprit qui qualifie les hommes. Il y a même certaines inventions qui sont dues à des auteurs bibliques ou à des hommes qui travaillaient pour des rois. Je pense notamment à l'époque du roi Ozias. Ozias était un roi extraordinaire. Il nous est dit que Ozias avait des ingénieurs. Et c'est écrit comme ça dans la parole de Dieu, que ces hommes avaient cette intelligence et qu'ils avaient, pour défendre la ville, ils avaient inventé des machines destinées à lancer de grosses pierres. Parce que le mot n'existait pas à l'époque. Une machine destinée à lancer de grosses pierres, ça s'appelle une catapulte. Si vous regardez Wikipédia, Wikipédia, qui pense tout savoir, va vous expliquer que la catapulte a été inventée, certainement par des Grecs, probablement en Sicile, au 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais la Bible me dit que c'est l'Esprit du Tout-Puissant qui a donné l'intelligence, la sagesse et le savoir, la capacité de faire toutes sortes d'ouvrages pour que déjà au 8e siècle, les ingénieurs d'Ozias inventent la catapulte et puissent défendre efficacement la ville contre les assauts ennemis. Tous ceux qui étaient animés par le souffle, par le roi de Dieu, étaient déjà des gens qui faisaient la différence. Quand Pharaon a vu Joseph pour la première fois, il a dit « Où pourrions-nous trouver un homme tel que lui, un homme qui a en lui l'esprit du Dieu vivant ?» Quand on voit un homme comme Daniel, il nous est dit que Daniel, parce qu'il était animé d'un esprit roi, il était animé d'un esprit supérieur, Daniel 6, il dépassait, il surpassait tous les chefs, tous les satrapes, tous les intendants, tous les gens qui avaient une position dans le royaume de Babylone, et de tous les collègues de bureau, pardonnez-moi l'expression, Daniel, c'était le plus futé, c'était le plus malin, c'était le plus intelligent, c'était le plus droit, c'était le plus honnête, c'était le plus réglo. Et ça a tellement énervé les autres qu'ils ont fini par faire cette espèce de complot pour le balancer dans la fosse au lion, qui au final, de toute façon, s'est retourné contre eux, parce que c'était l'esprit qui avait inspiré Daniel, c'était l'esprit aussi qui le gardait et qui le protégeait. On voit dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, un homme comme Étienne, rempli du Saint-Esprit, et il nous est dit que personne ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ben moi, je me dis que si les chrétiens, sur leur lieu de travail, ils sont remplis du Saint-Esprit, ça va bouger. L'incarnation. Ah, c'est sûr que nous adorons Jésus. Évidemment, amen. Matthieu chapitre 1er, verset 18, nous dit que Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 34. L'ange est là pour annoncer à Marie la naissance du Sauveur. Et Marie va parler à l'ange en ces termes, verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il ? Comment est-ce que je vais devenir enceinte, puisque je ne connais point d'homme ?» Ça signifie, je n'ai aucun rapport sexuel, elle était vierge. « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais aucun homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit, roi dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pneuma. » Roi en hébreu, pneuma en grec, c'est le même esprit. Le pneuma divin, le pneuma de Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance, et ici ce qui est intéressant, c'est que le mot puissance, c'est le même mot que lorsque Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il s'agit ici littéralement de la dunamis. Le Saint-Esprit, le pneuma de Dieu, la personne du Saint-Esprit viendra sur toi, elle te couvrira de sa dunamis et elle te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Amen. C'est le Agios pneuma qui viendra sur toi. Et tout comme il couvrait la surface des eaux, au récit de la création, il a couvert le sein de Marie et il a conçu le corps de Jésus dans le ventre de Marie. Le miracle de l'incarnation, oui, l'incarnation est un véritable miracle. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de Jésus homme. Jésus Dieu de toute éternité, oui. Mais sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de Jésus homme, il n'y a pas d'incarnation. Ah, il est vraiment omniprésent. Tiens, parlons de la résurrection. C'est quand même important la résurrection, parce que l'apôtre Paul dit, attention, si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous croyez pour rien et vous êtes encore dans vos péchés. Donc ce n'est pas seulement Jésus incarné, pas seulement Jésus crucifié, il vaut mieux que Jésus soit vraiment ressuscité et qu'il ait vraiment triomphé de la mort. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité des morts, votre foi est vaine, vous perdez votre temps, allez faire votre jardin parce que vous êtes encore dans vos péchés. Et la résurrection de Jésus, ce point culminant, ce point capital du message de la bonne nouvelle qui a été si souvent prêché, annoncé par les apôtres, nous savons de par les Écritures que c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est lui qui ressuscitera aussi tous ceux qui seront morts en lui. Romains 8, il ne faut pas que je le cite seulement. Ce sont vraiment des textes qui sont clés, qui sont fondamentaux pour notre foi et notre avenir aussi dans l'éternité. Il ne faut pas perdre de vue ces textes. Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cet esprit, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. La résurrection, c'est l'œuvre de l'Esprit, par son Esprit qui habite en vous. Amen. Et vous pouvez le graver, vous pouvez le surligner dans votre Bible et garder ça comme espérance glorieuse dans votre cœur. Bon, ça c'est très bien. Mais enfin ensuite, il faut quand même que l'œuvre du Seigneur sur la terre, il faut qu'elle se fasse, il faut qu'elle se développe, il faut que ça avance. Il faut des gens qui naissent à la vie de Dieu. Il faut des nouvelle naissance, c'est spirituel, c'est incontournable. C'est ce que Jésus explique à Nicodème en Jean 3. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent vient, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Il souffle, pneuma, il souffle où il veut. Mais toi, il faut que tu naisses de nouveau. C'est incontournable parce que si on n'a pas de nouvelle naissance, j'en ai parlé la semaine dernière, mais je le rappelle, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de conviction de péché. S'il n'y a pas de conviction de péché, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas ici de nouvelle naissance. Ah, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, qu'il n'y a pas de nouvelle naissance, je sais ce qu'on va avoir. On va avoir des sympathisants dans nos églises. On va avoir des gens gentils dans nos églises. On va avoir des adhésions aux associations cultuelles. On va avoir des gens religieux. On va avoir une belle religion évangélique faite de toutes sortes de règles. Mais on n'aura pas d'authentiques chrétiens dans la victoire d'authentiques disciples de Jésus-Christ. On n'aura pas la vie de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il y a juste de la religiosité. Et puis une fois qu'on est né de nouveau, ben c'est bien beau, mais une fois qu'on est né, il faut grandir. Heureusement que vos enfants ne sont pas restés des bébés tout le temps, ça vous aurait inquiété. Hein. C'est magnifique un bébé, c'est beau, c'est mignon, mais à partir du moment où il ne grandit pas, ça devient franchement inquiétant. Qu'est-ce qui va assurer ma croissance personnelle? Oui, il y a la parole, certes, mais la parole est l'esprit. Et j'ai besoin de cette vie de l'esprit, j'ai besoin de ce souffle qui me fait vivre la vie de Dieu. Et ce souffle qui fait vivre la vie de Dieu, il agissait autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Un souffle qui est indispensable à ma vie spirituelle, à ma croissance, à ma conduite, à ma direction. Un souffle qui me donne la vie de Dieu, qui me permet de vivre la vie de Dieu. Pas seulement la vie physique qu'on a vue tout à l'heure, vous avez compris. Cette fois, il s'agit de la vie spirituelle, de la vie de Dieu. Dans le livre des Nombres, on a un homme remarquable. Son ami, c'est Josué, mais là, je vous parle de Caleb. Il nous est dit que c'est Dieu qui rend lui-même ce témoignage. Il dit: « Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, un autre souffle, un autre roi, il y avait en lui un autre esprit, un autre par rapport à quoi ? Un esprit différent de l'esprit de ce monde. Il avait un autre état d'esprit, il avait une autre façon de penser, une autre façon de gérer ses affaires, il avait d'autres priorités, il avait un autre état d'esprit. Parce que Caleb était animé d'un autre esprit, le roi de Dieu, esprit, roi, il a suivi pleinement ma voie et je l'ai fait entrer dans le pays où il est allé. Parce qu'il était animé du souffle du roi de Dieu, et il a pu marcher dans les voies droites de Dieu, pour arriver dans le pays, c'est-à-dire dans la vie abondante avec Dieu. Il y a des gens, ils espèrent, sans le Saint-Esprit, avoir une vie impeccable, juste avec la parole. Vous pouvez avoir un beau bateau qui est super bien briqué, excusez-moi s'il n'y a pas de vent dans les voiles, vous allez nulle part. J'ai besoin de ce roi, de ce pneuma, j'ai besoin de ce souffle qui va me pousser, qui va me propulser dans la vie de Dieu, qui va me permettre de garder le cap, qui va être mon moteur, qui va être mon énergie, on l'a chanté ce matin, qui va être le vent. C'est le vent dans mes voiles, c'est l'Esprit de Dieu qui va être le vent dans mes voiles et qui va me faire avancer, qui va me tenir. Il nous est dit en acte 2 que, le jour de la Pentecôte, il est venu du ciel un bruit comme celui d'un vent, vous connaissez, d'un vent impétueux. Le vent ici est traduit littéralement par souffle, un souffle de vie. Le jour de la Pentecôte, oui, ils étaient tous vivants physiquement, mais le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent, littéralement un souffle nouveau. Il y a eu un souffle de vie qui a rempli toute la maison où ils étaient assis. Ils n'ont pas été visités. Ils n'ont pas senti un courant d'air passer. Le vent les a remplis. C'est le même verbe qui est employé lorsque le vent doit remplir les voiles. C'est le même verbe qui est employé, vous savez, pneuma, le grec, le latin. Pneuma, ça a donné pneumatique. Vous avez déjà essayé de rouler dans une voiture avec des pneus qui ne sont pas gonflés ? Non mais c'est ça, hein, c'est vraiment l'idée, c'est pareil. C'est le vent qui remplit mes voiles. C'est le souffle, c'est l'air, c'est le souffle qui remplit le pneuma remplit la roue, il remplit le pneumatique. Vous avez déjà vu sur l'autoroute, les panneaux, quand vous roulez, il y a des panneaux de sécurité routière. Il y a marqué « Attention, pneus sous-gonflés, danger ». Ben, mes frères et sœurs, c'est exactement la même chose dans la vie spirituelle. Il y a des chrétiens, je vous demande pardon, il y a des pasteurs, je vous demande pardon. Ils ont des pneumatiques qui sont largement sous-gonflés. Pourquoi on dit que c'est dangereux ? Parce que les pneus qui sont sous-gonflés, ils vont éclater. Un pasteur qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il a des pneus sous-gonflés. Le jour où il y a une petite jeune qui passe, il va craquer. Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, il y a menace d'éclatement. Je peux éclater sous l'orgueil, je peux éclater devant une femme, je peux éclater devant l'argent, je peux éclater devant des tas de choses, devant des tas de choses. Il faut que le pneu soit bien gonflé. Mes frères et sœurs, si votre couple, écoutez-moi bien, si votre couple n'est pas rempli du Saint-Esprit, vous êtes menacé d'éclatement. Le souffle de vie, le souffle, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas un frisson, c'est une façon de vivre. Et régulièrement, avec ma voiture, je fais la pression des pneus. Et parce que je veux que mes pneus soient bien gonflés, sinon il va y avoir une usure prématurée, je risque d'avoir un éclatement, il va y avoir des tas de dégâts, la voiture va aller dans le mur, il va y avoir des tas de dégâts. Je m'excuse, les gens qui sont remplis, authentiquement remplis du Saint-Esprit, il n'y a pas d'éclatement. Ça avance, ça roule droit, il y a de la puissance et ça va tout seul. J'ai besoin de vivre une vie continuellement remplie du Saint-Esprit. Est-ce que tu étais rempli dans les années 80 ? C'est bien, mais ça commence à faire longtemps, il faudrait refaire la pression des pneus. Est-ce que tu étais rempli dans les années 90, 2000, 2010 ? Tu étais peut-être rempli du Saint-Esprit l'année dernière, mais cette année maintenant, il faut régulièrement toujours vérifier à ce que le niveau soit toujours bien rempli, être toujours bien à niveau. Il faut faire les niveaux. Le livre des Actes me dit en acte 2 qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et en acte 4, peu de temps, peu de jours après, il est dit qu'ils furent tout à nouveau remplis du Saint-Esprit. Parce qu'ils roulaient, excusez-moi l'expression, hein, ils roulaient tellement, il y avait tellement de menaces, tellement de persécutions, tellement de problèmes, tellement de combats, tellement d'oppositions, que de toute façon, en un rien de temps, tout ce qu'ils avaient était vidé, et il fallait être constamment renouvelé. Acte 2, rempli, acte 4, rempli. Et on voit qu'être rempli du Saint-Esprit, c'était une façon d'être, une façon de vivre. J'avance, je termine très rapidement avec ces quelques points. La sanctification. Ah oui, parce que le but de la nouvelle naissance, frères et sœurs, ce n'est pas seulement le salut. Le but de la nouvelle naissance, c'est de retrouver l'image de Christ. Cette image perdue en Éden, cette image perdue par le péché, cette image qui m'a sali, cette image spirituellement, j'ai été défiguré par le péché. Eh bien, la sanctification, c'est de retrouver l'image du Christ. C'est le but de la nouvelle naissance. C'est aussi le but de la présence du Saint-Esprit dans le temple que je suis, dans mon être intérieur. Ah, parfois, on est beaucoup plus intéressé de savoir quand est-ce que le Saint-Esprit va guérir à nouveau plus de gens que de savoir quand est-ce que moi, je vais être davantage transformé, sanctifié et que mon caractère va changer et que je vais être métamorphosé par le Saint-Esprit. On ne prend pas du Saint-Esprit ce qui nous arrange. On le prend lui ou rien. Et pourquoi est-ce qu'on a tellement de lacunes dans certains domaines ? Des fois, on dit « Où sont les miracles ?» Non, ce n'est pas la question. La vraie question, c'est « Où en sommes-nous ? Où en es-tu ? Où en sommes-nous chacun pour notre part ? Où en sommes-nous avec la personne glorieuse du Saint-Esprit ?» 2 Corinthiens 3, 18, « Nous sommes transformés de progrès en progrès, de gloire en gloire. Nous qui, le visage découvert, contemplons le Seigneur l'Esprit, le Seigneur l'Esprit, nous sommes transformés, nous sommes métamorphosés de progrès en progrès, de gloire en gloire. Pardon, ça fait combien de temps que, pas toi, ça fait combien de temps que ceux qui t'entourent n'ont pas pu dire oh, « qu'est-ce qu'il a changé ?» Oh, elle a progressé ces derniers temps. Oh, ma petite maman, je te reconnais pas. J'ai une maman différente en ce moment. Ah, oh, mon chéri, je te reconnais pas. Mais quel mari tu es devenu, c'est extraordinaire. Il me transforme. Il me rend capable, Romains 5, je vous l'ai noté. Il me rend capable d'aimer. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le pneuma, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et cet amour qui est répandu en nous, c'est ce que Paul dit aussi en Galates 5, 22, vous l'avez là, c'est le fruit, cet amour, c'est le fruit de l'Esprit. Et le fruit, il doit pousser, il doit grandir. Le fruit, il n'est pas pour moi. Le fruit, il est pour les autres. Quand tu es plein de joie, c'est super pour toi, mais c'est aussi pour les autres. Quand tu es plein de paix ou plein d'inquiétude, les autres, ils le ressentent. Quand tu es plein de bonté, plein de tempérance, plein de maîtrise de toi, ou alors est-ce que je démarre au quart de tour, j'ai le sang chaud. Quand je suis plein de maîtrise de moi, le Saint-Esprit me rend maître de moi-même, maître de mes émotions, maître de tout ce qui est déstabilisé, désordonné, désorganisé en moi, maître de mes sentiments, maître de mes pulsions, maître de tout ça, la maîtrise de soi. C'est drôlement bon pour les autres. Puis quand tu es patient, les autres se délectent d'avoir quelqu'un d'aussi patient que toi. Il me sanctifie, il me rend capable d'aimer, il fait monter le fruit de l'Esprit. Il me remplit de son fruit et il me ramène sans arrêt, toujours un peu plus, de gloire en gloire, à l'image du Christ Jésus. Il y a aussi ces aspects que nous aimons un petit peu plus, mais qui ne sont pas à prendre en considération plus que d'autres, ça fait partie du pack, excusez-moi l'expression, ça fait partie de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, il y a l'onction, oui, il y a la guérison, oui, il y a la délivrance, oui, il y a les manifestations surnaturelles et les dons spirituels qui sont communiqués par le Saint-Esprit. Mais ici, Acte 10 nous dit, allez, vous l'ouvrez avec moi s'il vous plaît, ce sera notre dernier texte. Acte 10, verset 38, « Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint. » Vous vous rendez compte que Jésus, bien qu'étant la parole incarnée, même lui, il n'a pas fait l'impasse sur le Saint-Esprit. Pourtant, s'il y en avait bien un qui aurait pu s'en passer, c'était lui. Alors moi, je suis qui pour faire l'impasse sur la personne glorieuse du Saint-Esprit ? Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de puissance. Jésus allait ensuite de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Amen. On sait aussi de par Luc chapitre 4, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. L'onction, l'huile, on verra tout ça plus tard. Il m'a oint pour guérir, pour délivrer, pour proclamer, pour annoncer, pour libérer, etc., etc. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint, il m'a envoyé, c'est l'Esprit qui a envoyé Jésus. Ensuite, les disciples, après la Pentecôte, vont entrer dans ces dimensions extraordinaires dans lesquelles ils vont pouvoir continuer les enseignements et les œuvres de guérison, de délivrance, eux aussi revêtus par la puissance du Saint-Esprit, et connaître toutes les manifestations puissantes et surnaturelles du Saint-Esprit. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de Pentecôte. S'il n'y a pas de Pentecôte, il n'y a pas d'acte des apôtres. Parce qu'en réalité, ce ne sont même pas les actes des apôtres. Ce sont les actes du Saint-Esprit, au travers des apôtres. Et c'est pour ça que Dieu veut que ça continue au travers de nous, de chacun de ses disciples. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de miracle. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de croissance. Il nous est dit dans Acte 9 que l'Église s'accroissait. Elle était en paix et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Sans l'Esprit-Saint, il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas de croissance. Sans l'Esprit-Saint, il n'y a même pas d'évangélisation. Sans le Saint-Esprit, on peut faire des réunions. Ça, on sait. Ça, les réunions, on peut organiser des réunions. Mais des réunions qui vont assouvir notre conscience, mais qui ne produiront jamais de résultats. Mais sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de vraie évangélisation. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, le roi, le pneuma, a toujours fait la différence. Et c'est ce qui est sur mon cœur. Je termine ce message d'introduction, ces trois messages d'introduction. On ira beaucoup plus loin dans les temps, dans les mois qui viennent. Mais je suis persuadé aujourd'hui pour l'Église de Manosque, pour l'Église de France, que nous avons désespérément besoin, tout à nouveau, de vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Pas une expérience, une vie, une façon de vivre remplie, continuellement remplie du Saint-Esprit. Tu ne vivras pas avec la mesure d'hier, tu ne feras rien avec la mesure d'hier. Il faut une dimension nouvelle, bien supérieure à la précédente, une dimension que nous ne connaissons pas encore. Mais nous avons besoin de réaliser que le Saint-Esprit est une personne et que nous devons avoir une communion avec lui. Sans communion, il n'y aura aucune communication. Une communion pour une bonne communication. Si nous voulons vivre de puissance, nous devons d'abord vivre de communion. Et pour vivre de toutes les manifestations, les œuvres, la puissance, la communication du Saint-Esprit, il va d'abord vraiment falloir soigner notre relation avec lui. Autant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Je veux réaliser tout ce que je manque sans le Saint-Esprit. Quand je suis léger, quand je suis négligent, quand je ne m'intéresse pas à lui, je me rends compte qu'il est indispensable en tout, partout, pour tout. Initier, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à initier, puis à entretenir, à développer une intimité avec cette personne extraordinaire. Si tu vis de sa communion, tu vivras de sa plénitude. Si tu vis de sa plénitude, tu feras la différence dans ce monde. Amen.